Bonsoir. Au sommaire ce soir, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Le ministre de l'économie acte la fin du soutien sans condition aux entreprises. Nous sommes passés aux sur-mesures, dit Bruno Le Maire. La rentrée scolaire est reportée de près de 2 semaines aux Antilles et dans une partie de la Guyane. La menace du Covid était trop importante. Mein Kampf, succès de librairie. L'éditeur Fayard a vendu 10 000 exemplaires de sa version accompagnée d'un travail critique très minutieux. Un nouveau tirage de 10 000 a été lancé. Nous irons à Kaboul également. Vous entendrez le témoignage d'une jeune femme traumatisée à l'idée de vivre sous le joug des talibans. Dans l'actualité encore, à droite, vers une candidature d'Éric Ciotti à la présidentielle, rien n'est certain encore. Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG? La porte s'ouvre. S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir, dit le directeur sportif Leonardo, mais il ajoute partir à nos conditions. Et puis accès de pudeur ou envie d'argent, 3 décennies après l'apparition de l'album de Nirvana Nevermind, un bébé tout nu sur la pochette, le bébé en question, 30 ans aujourd'hui, porte plainte pour pédopornographie.
France Inter.
Sa parution avait suscité beaucoup de commentaires au mois de juin. La nouvelle édition de Mein Kampf, le livre d'Hitler, publié par Fayard, est un succès de vente. L'éditeur avait pris 1000 précautions, un prix très élevé, 100 euros. Livre disponible uniquement sur commande des libraires, titre de style universitaire, historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf. Le nom d'Hitler n'apparaît pas sur la couverture. 1000 pages en tout, un tiers pour le texte original, 2 tiers pour des analyses critiques. Et bien avec tout cela, qui pouvait être dissuasif, un nouveau tirage a dû être lancé au début de l'été. Sophie Hogg est directrice éditoriale chez Fayard.
Nous redoutions d'une certaine manière une déferlante médiatique, et cette déferlante médiatique a peut-être entraîné en effet la vente de ce premier tirage qui était de 10 000 exemplaires très rapidement. On a été obligé d'envisager très tôt, parce que le livre était sorti en mai et à la fin du mois de juin, début juillet, on s'est dit nous sommes obligés de penser et de relancer une impression. Un tirage de nouveau de 10 000 exemplaires. Le livre a été quasiment en rupture pendant quelques semaines parce que nous étions obligés d'envisager un temps de réimpression qui était long. Je crois que les lecteurs, les gens qui étaient intéressés ont compris que c'était un travail sidérant, colossal et qu'ils pouvaient vraiment, cette édition critique pouvait leur apporter beaucoup de choses.
Un propos recueilli par Ilana Mouryoussef. L'économie française, le taux de chômage est revenu à son niveau d'avant-crise. Les prévisions de croissance sont plutôt bonnes cette année. Le problème numéro un des entreprises est la pénurie de main-d'œuvre, mais la dette publique est de 118%. Conséquence des milliards déversés depuis l'année dernière. Compte tenu de tout cela, un an et demi après le début de crise sanitaire et économique, l'État ne peut plus dépenser sans compter pour soutenir l'économie et les entreprises. Invité des rencontres de rentrée du MEDEF à Longchamp, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a sonné la fin d'une formule qui a fait florès depuis l'année dernière.
Nous avons protégé notre économie et nous avons fait ce choix collectivement. Nous avons protégé des salariés, évité la vague de faillite, évité la vague de chômage qui se serait soldée non seulement par une crise économique, mais par une crise politique digne de celle des années 30. Mais maintenant que l'économie française redémarre, que nous avons des perspectives de croissance à 6%, je le dis, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Nous sommes passés au sur-mesure, nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin, mais pour le reste, que l'économie soit libre, qu'elle crée des emplois et qu'elle crée de la richesse sans le soutien de l'État.
Et en fait, les patrons s'attendaient peut-être à une telle sortie. Ce matin, le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, avait lui-même appelé à la fin du quoi qu'il en coûte. Bonjour Maxime Deps.
Bonjour.
En direct de Longchamp, les réactions après le discours de Bruno Le Maire ne sont donc pas trop teintées d'inquiétude, Maxime?
Non, et premier des patrons à comprendre les mots du ministre, celui dont vous venez de parler, le premier d'entre eux, Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Mes amis, nous ne sommes pas devenus entrepreneurs pour vivre des aides de l'État.
Le président du MEDEF qui dit soutenir cette sortie du quoi qu'il en coûte de manière résolue, idem pour ce patron d'une entreprise de BTP dans les Bouches-du-Rhône.
Avant toute chose, on se sent être responsable. Nous faisons en sorte aujourd'hui de faire le nécessaire pour à la fois rembourser et essayer de redémarrer, de revoler avec nos propres ailes, monsieur.
Croisé aussi dans les allées cet après-midi, Roland Egui, le président confédéral de l'UMI, qui représente les intérêts des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, il a lui aussi écouté attentivement ce qu'a dit Bruno Le Maire.
Écoutez, bien sûr que je l'ai entendu, mais on l'a entendu tout à fait différemment parce que nous avons encore des secteurs tellement disparates en termes de résultats qu'effectivement, j'ai aussi entendu que derrière, quoi qu'il en coûte, c'est fini, ils prendraient soin de notre secteur, c'est-à-dire les cafés, les hôtels et les restaurants qui sont en grande difficulté.
Plus loin, l'URSSAF a son stand, mise à disposition des patrons qui se poseraient des questions. Yann Gaël Amgar, son directeur général, rappelle que l'organisme a reporté nombre d'échéances pendant la crise et pas de raison que ça change.
Pas de panique parce que le quoi qu'il en coûte finit peut-être, mais l'accompagnement en sortie de crise, lui, il se prolonge et dans la durée.
Bref, ici, on retient que ça s'arrête, mais pas non plus totalement.
Maxime Debs en direct de Longchamp avec Jean-André Giannichini pour France Inter. Outre-mer, après un été dans l'enfer du Covid, la vie ne pouvait pas reprendre normalement. La rentrée scolaire est reportée de début au 13 septembre en Guadeloupe, Martinique, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et dans la partie de la Guyane en zone rouge. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
La décision a été actée ce matin en Conseil de défense sanitaire. Maintenant, il faut organiser ce report, ce qui n'est pas une mince affaire.
Oui, surtout que c'est inédit, à une semaine seulement de la rentrée. Mais en plein confinement aux Antilles, tout le monde attendait cette décision inévitable. Les vacances scolaires sont donc prolongées jusqu'au lundi 13 septembre. Il n'y aura pas d'enseignement à distance d'ici là. Ce serait impossible, comme le dit Valérie Vertal-Loriot, co-secrétaire académique du syndicat SNES de la Martinique, satisfaite d'avoir été entendue.
Vous imaginez bien que ce sont des élèves que nous ne connaissons pas, puisque c'est un début d'année. Il faut mettre en place un certain nombre de choses. Et sans voir les élèves, c'est extrêmement compliqué. Ils sont plutôt pour la solution qui est celle de reporter la rentrée scolaire sans faire de distanciel puisque c'est difficile à mettre en œuvre et aussi de revoir naturellement le calendrier scolaire de l'année. Et nous attendons des précisions sur les éventuels moyens humains que nous appelons de nos voeux.
Les syndicats réclament en effet des moyens en heures d'enseignement personnel. Ils craignent un décrochage des élèves déjà fragiles dans ces territoires d'outre-mer. Le calendrier scolaire sera bien réaménagé pour rattraper ces jours perdus, confirme la rectrice de la Guadeloupe. Et toutes les modalités de cette nouvelle rentrée, avec un protocole sanitaire sans doute renforcé, seront examinées par un groupe de travail qui vient d'être mis en place. Des demi-jauges, des mesures plus strictes en matière de brassage des élèves, tout sera étudié.
Et à l'école Outre-mer et Métropole, pour les moins de 12 ans qui ne seront donc pas vaccinés, le président du conseil scientifique recommande l'aération des écoles, l'installation de capteurs de CO2 et un dépistage très régulier à travers des tests salivaires comme en Allemagne, Angleterre et Autriche, dit le professeur Delfrécy. Dans le travail diplomatique qui est mené pour exfiltrer d'Afghanistan le plus possible de candidats à l'exil, l'Allemagne semble jouer un rôle clé. La communauté internationale doit continuer de dialoguer avec les talibans, dit Angela Merkel. Ils sont une réalité. Et c'est d'un diplomate allemand que vient la petite bonne nouvelle du jour. Les talibans avec qui ils discutent au Qatar ont accepté que des Afghans puissent quitter leur pays après le 31 août, date limite qui semblait non négociable jusque-là. Bonne nouvelle fragile qui demande confirmation et précision. Les milliers de personnes massées à l'aéroport cherchent à partir le plus vite possible tout de même de Kaboul. 2000 personnes évacuées depuis le 14 août, selon la Maison Blanche. Les États-Unis, principaux organisateurs. La France joue un rôle aussi. Comment s'organise ce pont aérien avec cette date du 31 août qui reste dans les esprits et le sentiment de course contre la montre? Élément de réponse avec vous, Éric Biégala.
L'armée française, par exemple, a doublé ces derniers jours ses capacités d'embarquement. La base aérienne 104 d'Al-Dafra aux Émirats Arabes Unis pouvait envoyer sur Kaboul 2 appareils tous les jours la semaine dernière. Depuis 3 jours, c'est 4 vols français quotidiens qui atterrissent à Kaboul et 2 avions de transport stratégique au lieu d'un qui assure la liaison finale depuis Abu Dhabi vers Paris. Au total, les A400M et C-130 de l'armée de l'air française ont réussi à évacuer depuis le 15 août 2400 personnes. Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées.
Sur ces 2400, il y a une centaine de Français, une centaine de personnes d'autres nationalités et 2200 Afghans. Il reste quelques dizaines de Français sur place en Afghanistan, des diplomates qui font un travail magnifique pour les opérations d'évacuation. Il reste quelques travailleurs humanitaires. Tous ces Français seront rapatriés prochainement à Paris. Et il reste aussi des Afghans, quelques centaines, quelques milliers d'Afghans qui souhaitent être rapatriés, qui demandent la protection de la France et pour lesquels nous faisons le maximum pour les évacuer dans les meilleures conditions de sécurité.
Alors combien de rotations seront encore nécessaire pour évacuer les derniers Afghans éligibles à une évacuation par les appareils français? C'est difficile à dire. On notera que le ministre de l'Intérieur et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, précisaient tous deux ce matin que les rotations françaises sur Kaboul seraient suspendues d'ici la fin de la semaine.
Et les talibans vont-ils à nouveau semer la terreur dans le pays 20 ans et plus après leur premier passage au pouvoir? La ligne rouge, ce sera l'attitude vis-à-vis des femmes, a fait savoir la commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Voici un témoignage particulièrement marquant, recueilli par notre confrère de RFI Vincent Souriot, témoignage d'une jeune Afghane qui ne quittera pas le pays et s'apprête donc à vivre sous le joug des talibans. Elle s'appelle Ella Yacoubi, sa vie a basculé.
Le premier jour, quand les talibans sont entrés dans Kaboul, ça m'a coupé le souffle. On a grandi en démocratie, avec les réseaux sociaux, avec toutes les libertés. Mais maintenant, c'est fini. Je ne veux pas me couvrir. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ces vêtements qu'ils veulent me faire porter ? Avec le jean que je porte, avec le voile que je porte, j'allais à l'université tous les jours. Quel est le problème avec ça ? Maintenant, ils veulent que je me couvre le visage, que je porte des tuniques longues et toutes noires. Mais pourquoi ? Moi, je refuse, je n'en veux pas. Et c'est pour ça que je ne sors plus. Je ne veux pas leur faire ce plaisir. Mais maintenant, je n'arrive plus à manger. Je n'arrive plus à rien. J'étais une bonne élève. J'avais de si bons résultats à l'université. J'avais un si bon poste au ministère des Travaux publics avec un bon salaire pour aider ma famille. Mais maintenant, je n'ai plus rien. Toutes mes études, tout mon passé, j'ai l'impression d'être au cimetière.
Voilà pour ce témoignage recueilli par Vincent Souriau. En France, l'homme arrivé ces derniers jours est soupçonné d'être proche des talibans et jugé ce soir en comparution immédiate. Or, a-t-on à la fin du week-end la liste complète des candidats de droite à la présidentielle, qu'ils passent ou non par la primaire ? L'Institut IFOP attend les noms pour lancer lundi son sondage auprès des sympathisants, voir si une personnalité se dégage, éviter la primaire. Se sont officiellement lancés Valérie Pécresse, Philippe Juvin et Xavier Bertrand hors primaire. Les réunions de rentrée se multiplient ce week-end. On verra si Laurent Wauquiez, qui organise comme chaque année l'ascension du Mont Mézenc, précise ses intentions. Parmi les pressentis, il y a Michel Barnier. Et puis, bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Un nom devrait s'ajouter à la liste, celui du député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti.
Oui, Éric Ciotti en a récemment discuté avec Jean Leonetti, chargé d'organiser la primaire. Il lui a paru très déterminé. Le député et président de l'importante fédération des Alpes-Maritimes devrait donc officialiser cette semaine sa candidature dans les médias avant le traditionnel rassemblement de son association de soutien samedi soir à Levens, près de Nice. Alors qu'est-ce qui a pu le décider ? Lui qui jusque-là n'avait montré que peu de velléité. Alors son idée c'est de peser pour la suite, décrypte un cadre qui ne l'imagine pas visant vraiment l'Élysée, faire valoir aussi ses idées, son courant quand les autres tenants d'une ligne dure semblent hésiter à se lancer. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, serait en plein doute. Laurent Wauquiez, lui, après avoir consulté en juillet, forge désormais seul sa conviction avec, nous dit un proche, un grand sentiment de responsabilité. Le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont la décision est certainement la plus attendue ces prochains jours, car pour beaucoup, c'est de sa seule candidature dont dépend aujourd'hui réellement l'avenir de la primaire.
Et la rentrée politique, Éric Delvaux, ce sera le thème du téléphone sonne après ce journal ?
Mais effectivement, avec des partis politiques donc en ordre dispersé, on vient d'en parler, avec des ambitions en vue de la présidentielle, et puis un exécutif qui aimerait bien relancer certaines réformes, mais elles restent embourbées pour l'instant dans la crise sanitaire.
01 45 24 7000 pour toutes vos questions, chers auditeurs. J'ajoute que François Baroin quittera en novembre la présidence de l'Association des maires de France. C'est le maire de Cannes, David Lisnard, qui est favori pour lui succéder. Les amateurs de foot qui rêvaient de voir jouer ensemble toute une saison, Messi, Neymar, Mbappé, en seront-ils pour leurs frais ? L'hypothèse d'un transfert d'Mbappé, peut-être dès cette saison, a pris plus de corps ces dernières heures. Dernier événement en date, cette phrase du directeur sportif du PSG, Leonardo : si Mbappé a envie de partir, on ne va pas le retenir. Alexandre Vaux, la porte de sortie est un peu plus ouverte pour la star de Paris.
Oui, clairement, si on décrypte donc les déclarations du directeur sportif du PSG cet après-midi, Leonardo rappelle d'abord que le club n'a jamais ouvert la porte à un départ de Kylian Mbappé, ayant tout fait pour le renouveler. Mais Leonardo d'ajouter que si le joueur veut partir, il partira à nos conditions, aux conditions du PSG. Comprenez donc une somme plus importante que la première offre du Real Madrid hier, qui était déjà de 160 millions d'euros, c'est-à-dire une offre donc attendue plutôt autour des 200 millions d'euros, car le club parisien souhaite au moins se rembourser après avoir dépensé 180 millions d'euros pour faire venir Mbappé de Monaco en 2017. Le PSG doit aussi faire attention, car si le champion du monde français de 22 ans ne prolonge pas son contrat et que le club parisien ne le vend pas cet été, Kylian Mbappé risque de partir l'été prochain direction Madrid sans contrepartie financière pour Paris. Reste donc 6 jours, Bruno, au Real et au PSG pour s'entendre. Fin du marché des transferts le 31 août à minuit.
Et en tennis, un forfait de plus avant l'US Open après Nadal et Federer. Serena Williams blessée à la jambe. Allez, nous écoutions les Rolling Stones hier dans ce journal. Ce soir, Nirvana.
Smile.
Smells Like Teen Spirit, premier titre de l'album Nevermind. La pochette est l'une des plus célèbres de l'histoire du rock. Un bébé tout nu sous l'eau qui semble nager après un billet de 1 dollar. Oui, on voit le zizi du bébé. Et figurez-vous que 30 ans après la sortie de l'album, ça pose problème. Cela ressemble à une farce, mais des documents judiciaires en attestent. Le bébé en question, qui a donc aujourd'hui une trentaine d'années, vient de porter plainte, Victor Vasseur, contre le groupe pour pédopornographie.
Spencer avait 4 mois au moment de cette photo. Son père était un ami du photographe. 15 secondes passées dans l'eau, le temps de prendre le cliché pour le papa d'empocher 200 dollars. Mais jamais les parents n'ont signé de décharge pour l'utilisation de cette photo. Et depuis, le jeune homme de 30 ans n'a jamais reçu la moindre compensation. La plainte vise les anciens membres du groupe, la descendance du chanteur Kurt Cobain ou encore le photographe. Il y a 17 accusés en tout. Spencer réclame 130 000 euros de la part de chacun car il ne supporte plus de voir cette image devenue une référence. L'ajout du dollar hameçonné sur la pochette fait paraître le garçon comme un travailleur du sexe, explique son avocat. Une rancœur qui remonte à plusieurs années déjà. Il témoignait au Time en 2016. « J'ai l'impression d'être célèbre pour rien. Je n'ai rien fait d'autre que leur album », disait-il. Spencer n'aime plus cette pochette et pourtant à plusieurs reprises, il a rejoué la scène dans une piscine. Mais à chaque fois, avec un short.
Et près de 15 ans avant cet album Nevermind, on s'en fiche de Nirvana. On se souvient que les Sex Pistols avaient sorti leur album Nevermind the Bollocks. Bollocks pour couilles, hein, disons-le. Et bien manifestement, l'époque n'est plus du tout ni au rock ni au punk. Allez, il fait beau demain.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Baume et dégradation par le nord, Elodie Calac.
Et oui, en effet, des côtes de la Manche vers le bassin parisien et l'Alsace, la matinée sera bien encombrée avec quelques gouttes vers le Grand Est. L'après-midi, ce ciel très nuageux s'étendra du nord de la Bretagne vers l'Orléanais et le Jura. Plus au nord, le ciel retrouvera quand même quelques couleurs plus belles vers la Normandie et vers la région parisienne. Sur le reste du pays, donc en allant vers le sud, là, le soleil sera très généreux encore. Il y aura tout de même un petit risque d'averse sur l'est des Pyrénées l'après-midi. Et puis le vent soufflera à nouveau sur le sud-est, tramontane, mistral et vent d'ouest sur la Corse jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Les températures, elles vont baisser un petit peu au nord avec l'arrivée de ces nuages. 19 degrés au Havre, 20 à Lille, 22 à Paris, Brest ou Strasbourg, 24 à Bourges. Ça restera estival au sud avec 27 degrés à Lyon, 29 à Bordeaux, à Bastia, 31 à Toulouse et 32 à Nîmes.
Élodie Calac, Météo France.